Bienvenue au musée du carton tapisserie. Moi, je m'appelle Vincent, je serai votre guide. Donc, au musée du carton tapisserie, on va vous raconter un peu l'histoire de la tapisserie. L'histoire de comment on fait une tapisserie, donc les méthodes de fabrication, les différents outils. Et on va aussi vous parler de l'histoire un peu de l'industrie de la tapisserie au cours des siècles. Donc, dans la première partie du musée, qui est le rez-de-chaussée, donc l'entrée, je vais vous parler surtout de comment le carton tapisserie est passé du statut d'outil à œuvre d'art. Parce qu'il faut savoir que le carton tapisserie n'était pas un tableau exposé comme on peut le voir dans le musée, mais c'était un outil qui était utilisé pour faire la tapisserie et ensuite jeté ou détruit. Jeté ou détruit ou stocké, hein, c'est pour ça qu'on en a récupéré. Donc voilà, il va passer au statut d'œuvre d'art en fait à la fin des années 80 quand la mondialisation va affaiblir le nombre de commandes à Aubusson, ça et le manque de successeurs, car les propriétaires des entreprises étaient vieillissants, ne trouvaient pas de successeurs à leur entreprise. Du coup, ils sont mis à fermer, et en fermant, ils organisent des grandes ventes aux enchères où ils vont vendre tout ce qu'ils ont, du coup, des cartons de tapisserie, notamment, il y avait plein d'autres choses aussi, des métiers à tisser, des flûtes, de la laine. Mais ces cartons de tapisserie, qui vont être vendus aux enchères, vont passer du statut d'outil à œuvre d'art, en fait, grâce à leur clientèle, qui est des collectionneurs, des restaurateurs et des amateurs d'art, tout simplement. Du coup, voilà. C'est dans ce cadre-là qu'arrive Chantal Chirac, la créatrice du musée, elle est restauratrice. Donc elle va racheter ses cartons, les restaurer, elle va en faire une affaire, elle va commencer à en vendre dans des salons, ici même. Voilà. Donc c'est ce qu'on voit dans le musée, en fait, ce qui est exposé. Il faut savoir que tout est à vendre, hein, du coup. Voilà. Mais voilà, elle va avoir cette activité-là jusqu'en 2009. En 2009, la cité d'Aubusson passe au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Dans ce cadre-là, la ville doit valoriser le savoir-faire aubussonnais de la Bastis lors d'une période test de 6 ans. Et dans ce cadre, ils vont monter des expositions, des musées, comme le musée de la tapisserie. Voilà, la maison du carton, du tapissier, désolé. Et en fait, il ne manque pas d'exposition ou de musée sur le carton tapisserie. Du coup, Chantal Chirac, qui a une collection impressionnante de cartons, va décider de monter ce musée dans cette maison, qui est une maison d'ère médiévale qui se trouve à la Terrade, donc de l'autre côté du pont, dans le vieux quartier. C'est une maison d'ère médiévale, du coup, qui a été entièrement restaurée pour l'occasion. C'était une maison en ruine, donc il n'y avait rien, pas de poutres, pas de plancher, c'était tout bouffé. Voilà, donc elle va appeler des investisseurs, ils vont commencer à investir dans cette maison, à tout restaurer, ils vont monter ce musée qui va ouvrir ses portes en 2012, du coup, date à laquelle on va pouvoir vous faire des visites guidées, comme aujourd'hui.
Donc c'est un musée privé.
C'est un musée privé. Alors, c'est une association qui gère le musée, mais le musée, oui, est privé. Mais on fonctionne avec des fonds publics, hein. Voilà. Donc on va passer dans la passerelle maintenant. D'accord. Dans la passerelle où je vais vous raconter un peu l'histoire de la tapisserie, de comment elle a acquis sa renommée, comment elle est arrivée en Creuse aussi, et un peu aussi de l'ambiance à Aubusson au XIVe siècle, je précise. Hein. Donc le XIVe siècle, c'est le siècle d'arrivée de la tapisserie Bastis. Donc comment ça se passe? Eh bien, la tapisserie Bastis, elle arrive à Aubusson grâce à un mariage, le mariage du comte de la Marche, du coup, avec une princesse des Flandres, voilà. Il faut savoir qu'on tisse déjà la Bastis dans les Flandres. Dans les Flandres, on la tisse grâce aux invasions sarrasines, donc qui ont eu lieu précédemment, et voilà, ils ont conservé ce savoir-faire parce qu'il est très utile pour isoler les châteaux, notamment. On habite des châteaux à l'époque qui sont en pierre de taille avec des gros courants d'air. Et dans ce cadre, il faut isoler un peu mieux les châteaux. On met des grandes tentures comme ça au mur, qui sont les tapisseries Bastis. Et comme évidemment, on va mettre des grandes tentures au mur, on ne veut pas qu'elles soient moches. Voilà. On va faire des tentures qui sont décorées, qui sont jolies, avec des belles couleurs. Et à l'époque, on ne sait pas lire, donc on va avoir tendance à raconter des choses à travers les tapisseries. Donc c'est un aspect aussi. Donc c'est trois aspects de la tapisserie, décoratif, isolant et narratif. Voilà. Donc on tisse à Aubusson du coup à partir de cette époque-là. Aubusson de base c'était déjà une ville qui était ouvrière, donc où il y avait beaucoup de mouvements. Il y a du mouvement depuis toujours à Aubusson, hein, il y a des voies romaines qui passent pas très loin. Donc on peut retracer l'activité ici jusqu'à très très loin, jusqu'à l'ère antique. Et du coup, voilà, grosse activité à Aubusson. Donc, c'est une ville qui est protestante. Donc, à contrario de Feltin, la ville voisine qui est bourgeoise et catholique. Voilà, donc il y a des rivalités qui vont se créer. Voilà, bon, encore aujourd'hui, le Feltin dit c'est le berceau de la tapisserie. Aubusson, c'est la capitale. Enfin, bon, voilà, c'est un peu en bisbille. Mais voilà, donc petite rivalité entre ces deux villes déjà à cette époque-là. Donc ici nous sommes dans une maison octroi. Donc c'est un point de péage, du Moyen-Âge. Les gens qui passent le pont de la Terrade payent des taxes à cette maison. Ils payent notamment la taxe sur le sel et le droit de passage, du coup le péage tout simplement. Voilà. Et il faut savoir d'ailleurs que la gruge des taxes depuis le Moyen-Âge, c'est courant, voilà. Enfin on fait ça depuis le Moyen-Âge. Et eux, comment ils faisaient du coup? Eh ben, il faut savoir que le collecteur, eh ben, il soulevait pas forcément tous les sacs parce que c'était lourd. Alors, ce qu'ils faisaient, ils prenaient les gros sacs de sel et les mettaient en dessous du chargement, comme ça, ils les voyaient pas. Ils vont arrêter de faire ça à une certaine époque à cause de l'état de délabrement du pont, qui en fait va faire se diluer les sacs en fait de sel qui étaient stockés du coup cachés en passant le pont à cause des crues, des intempéries. Et du coup, ils vont repasser par Feltin, alors c'est encore un sujet, voilà. Et ils vont passer à Aubusson au 17e à cause d'éruptions de volcans et de l'air glaciaire qui vont rendre la grimpée des côtes compliquée. Voilà. Donc, comment on acquiert la renommée, du coup, d'Aubusson par rapport au reste de la France et au monde entier? Et ben, c'est grâce à la guerre de Cent Ans. Avant la guerre de Cent Ans, désolé, on faisait venir nos laines d'Angleterre. Donc parce que c'était des laines plus fines, plus facilement teintables, de meilleure qualité en somme. Mais à cause de la guerre, il y a un embargo, on ne peut plus faire venir ces laines. Du coup, il faut décider d'un lieu de production en France pour pouvoir faire de la Bastille. On veut conserver ce savoir-faire parce qu'au Moyen-Âge, savoir faire des choses, c'est être puissant. Voilà, donc on conserve ce savoir-faire et on va l'installer à Aubusson. Alors pourquoi Aubusson? On peut se demander parce qu'il y a d'autres villes où on tisse. Il y a Beauvais par exemple, il y a des Gobelins à Paris. Et bien, à Aubusson, on a trois caractéristiques, dont une qui est déterminante. La caractéristique déterminante, c'est la Creuse. Alors pourquoi la Creuse est une caractéristique déterminante? Eh bien parce que la Creuse est une rivière qui est acide. Du coup, elle est très pratique pour dégraisser les laines de mouton et les teinter ensuite. Donc voilà, ici, on prend l'eau de la Creuse et on dégraisse. Dans notre vie, il faut faire des bains, il faut mélanger les choses, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est un très gros avantage d'Aubusson. Les deux autres, ça va être évidemment la nature environnante qui va du coup générer beaucoup de plants tintoriaux pour faire des couleurs. Notamment voilà, du Garance, pastel, du Cochenny. Voilà, alors Garance et Cochenny, c'était les plus chers. Hein. Les couleurs rouges étaient extrêmement chères à l'époque parce que c'était dur à générer. Donc la Cochenny, par exemple, c'était un insecte minuscule. À collecter, c'était très long. Voilà, la Garance, pareil, pour avoir un bon tanin, il faut quand même beaucoup de Garance. Et la Garance, c'est pas non plus une plante qu'on trouve partout. Donc voilà. Et évidemment, la place, voilà, pour faire de la laine. Voilà. Je vais élever des moutons. Et c'est à partir de cette époque-là, du coup, de la guerre de Cent Ans, qu'on va pouvoir tisser pour tout le royaume et qu'on va acquérir notre renommée de cité de la tapisserie. On n'est pas encore une manufacture royale, mais on le deviendra sous Louis XV. Et on va voir cet aspect-là dans la première salle du musée. Bienvenue dans la première salle du musée. Donc on va avancer. Donc on a plusieurs œuvres au mur hein, dans la première salle du musée. Donc on a des cartons de différentes époques, on a des scènes bibliques du 14e, on a des scènes de balades, là plutôt 15e. Là on va avoir un carton Renaissance avec une scène de chasse à cour, des fonds mille fleurs avec troubadour et musicienne. Et voilà, il y en a un deuxième, bon c'est cette fois une fileuse et un troubadour, mais c'est sensiblement la même ambiance. On a aussi une réplique du carton de la licorne en taille réduite, carton de la licorne qui est conservé au musée de Cluny, du coup, à Paris, qui a été restauré à Aubusson, qui a été retrouvé en Creuse, voilà, à Boussac, au château de Boussac, par Georges Sand. Donc ça, c'est une petite histoire intéressante aussi. L'histoire de Georges Sand et de la tapisserie de la licorne. On en parlera peut-être après. Du coup, moi, dans cette première salle du musée, je vous racontais, en fait, la chaîne de métier de la tapisserie. Donc, c'est-à-dire comment on fait une tapisserie à Aubusson. Il faut savoir qu'à Aubusson, on n'est pas des marchands de tapis. Attention, on est des fabricants de tapis. Ce n'est pas la même chose. Donc ici, on ne trouvera pas en fait de magasin où on a plein de tapis Aubusson. Ça n'existe pas à Aubusson. Voilà, on ne fait pas des pièces à la chaîne. On ne fait que des pièces uniques. Des pièces qui sont du coup des œuvres d'art. Hein. Donc, comment ça se passe du coup pour avoir ces fameuses pièces uniques, ces tapisseries Basquise qui sont du coup des objets de luxe, il ne faut pas l'oublier, hein, ça coûte un certain prix, on en parlera un peu après. Hop. Et bien, dans un premier temps, du coup, il faut avoir une idée de ce qu'on veut. Voilà, déjà, ça c'est une base, voilà, il faut savoir ce qu'on veut à Aubusson. Donc, on arrive généralement du coup avec soit une idée qu'on fait réaliser par des graphistes sur place, soit on apporte une maquette, donc c'est quelque chose qu'on veut. Voilà, donc ça peut être n'importe quoi. Là, en l'occurrence, ce que je montre, c'est une petite maquette avec verdure, bordure fleurie, petite cigogne, sur un plan d'eau. Donc ça, c'est très, très typique de la Renaissance, cet agencement-là.
C'est de la peinture à l'aquarelle, hein.
Alors là, je ne sais pas, je pense que c'est plutôt de la gouache. Parce qu'on peignait beaucoup les cartons à la gouache. Voilà, donc alors la peinture, après, les cartons peints, ils vont venir un peu plus tard. Même très tard par rapport au carton dont on va parler dans un premier temps, mais on va voir ça. Donc la chaîne de métier, on ramène du coup notre maquette. La maquette du coup est donnée à la manufacture. La manufacture le donne au chef d'atelier, et le chef d'atelier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va la donner au peintre cartonnier du coup. Quel est le rôle de ce peintre cartonnier? Qu'est-ce qu'il doit faire du coup avec cette maquette? Ben, lui, il doit la recopier à l'échelle, parce qu'une tapisserie c'est grand, c'est au moins 1 mètre carré. Et voire beaucoup plus, hein, on peut faire des choses très très grandes, voilà, de plusieurs dizaines de mètres carrés, hein, voilà, c'est possible, hein, pour peu qu'on ait un métier assez grand. Donc comment il fait du coup notre cartonnier pour mettre à l'échelle? Eh bien, il va utiliser la méthode au carreau. La méthode au carreau, elle est très simple, il suffit de faire un carrelage sur notre œuvre et de recopier ce qu'il y a dans le carrelage carreau par carreau avec le carreau qui, lui, a été mis à l'échelle sur la surface finale. Donc voilà, notre peintre cartonnier, il a grandi, il inverse aussi. Pourquoi il inverse? Parce qu'on tisse à l'envers. Et comme on tisse à l'envers, il nous faut un carton à l'envers. Sinon, on n'aura pas de tapisserie à l'endroit. Voilà. Et comme on préfère faire les tapisseries à l'endroit, c'est mieux. Donc bon. Donc notre peintre cartonnier, il va inverser, agrandir. Donc comme je vous disais, il n'y avait pas de carton peint. En tout cas, ils sont apparus très tard. Ils vont apparaître au milieu à l'ère industrielle environ. Avant, on avait des grisailles qui vont ressembler à ça. Tac. Donc les grisailles, ce sont des cartons qui ne sont pas peints du tout. Ce sont des toiles qui sont dessinées au sépia, généralement. Voilà, ou au fusain.
Il n'y avait même pas de repères de couleurs. Hein.
Alors si, il y avait des repères de couleurs quand même. Hein. Donc sur celui que je montre là actuellement, il n'y en a pas. Mais voilà, ils mettaient des repères de couleurs quand même pour que voilà, ils arrivent à se retrouver, notamment avec l'étape suivante, parce que comme on n'a pas de carton peint, il faut que quelqu'un mette les couleurs. Qui va mettre les couleurs? Ben, ça va être le coloriste. Le coloriste, lui, c'est un peu un petit chimiste. Il doit reconstituer les couleurs du carton, du coup, avec les trois couleurs primaires. Donc, de ce fait, comme il peut utiliser que les trois couleurs primaires, sa gamme de couleurs est limitée. Voilà, donc on aura une gamme de couleurs limitée jusqu'à la Renaissance. À la Renaissance, ça va légèrement évoluer, puis ça évoluera vraiment pareil à l'ère industrielle. Et au 19e. Au 19e, quoi, en gros. Donc voilà, 25 couleurs. On peut se demander, du coup, comment le coloriste faisait pour avoir des effets de profondeur intéressants avec 25 couleurs. Parce qu'il faut savoir que dans un visage, aujourd'hui, on peut retrouver, voilà, 10 couleurs. C'est beaucoup, notamment des œufs, des roses, des blancs, des nacres. Voilà, des marrons aussi pour les ombrages, voilà, du bleu éventuellement pour les yeux. Et donc comment il faisait? Ben lui, il utilisait des hachures. Hop, donc il fait des hachures sur son carton comme ça. Donc les hachures, en fait, ce sont des couleurs qu'on va entremêler, donc en faisant des petits barreaux, pour qu'ensuite le lissier, lui, en recopiant les couleurs, puisse faire un effet dégradé sans avoir utilisé 15 couleurs, quoi. Donc ces hachures, on va les retrouver jusqu'à très tard. Donc jusqu'à la Renaissance, donc où elles vont légèrement disparaître et où elles vont réapparaître du coup à l'ère moderne, du coup au 20e. Donc pareil, on en parlera un peu après. Donc le coloriste, lui, fait une palette de couleurs avec les couleurs qu'il a extraites du carton. Cette palette, il la transmet au teinturier. Le teinturier, lui, qui est chargé de teindre des brins de laine vierge, donc dans des bains entre 65 et 90 degrés, plus ou moins longtemps pour avoir des couleurs plus ou moins foncées en quantité suffisante, donc pesée, hein, on ne calculait pas au mètre, imaginez 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, on n'en peut plus, c'est interminable. Donc il pesait la laine, on connaissait le poids des tapisseries du coup. Et il faisait aussi chaque teinte en une fois. Pourquoi ? Parce que si on fait une teinte en deux fois, on n'a pas la même couleur. Hein. C'est quasiment certain. Donc, notre teinturier fait son œuvre. Il va teinter ses brins de laine vierge. Il va les monter ensuite en moche. Alors pourquoi nous on appelle ça une moche ? En fait c'est une torsade. Hein. Voilà, partout ailleurs on appelle ça une torsade, mais nous on appelle ça une moche. Le folklore ne raconte pas spécialement pourquoi. On peut se dire que c'est parce que c'est moche. Voilà, si on veut, par exemple. Voilà. Du coup ces moches sont montées en bobine et les bobines sont montées sur un dévidoir. Le dévidoir c'est une tour en fait qui est remplie de bobines, qui est positionnée derrière une roue qui va s'appeler la bobineuse. Donc là, notre roue, c'est une roue de vélo. Alors, les roues de vélo, on les a utilisées très tôt pour cet usage, hein, tout simplement parce que c'est pratique. Voilà. Donc faire une roue en boîte, c'est compliqué, c'est long, alors qu'utiliser une roue de vélo, c'est tout simple.
Au 14e, c'est une roue en bois, j'imagine.
Oui, voilà, oui, au 14e, c'était des roues en bois. Voilà, dès que le vélo est apparu, on va utiliser la roue de vélo, parce qu'il y a un roulement à billes, il y a des rayons, il y a une rainure, on peut tourner facilement, voilà, donc c'est très pratique. Donc on prend les fils du dévidoir qui est derrière la bobineuse, on les fait passer dans la flûte, hop, et on va enrouler du coup les fils sur la flûte. Donc la flûte c'est un petit objet en bois, percé en son centre, qui va être fuselé de manière concave, voilà, pour pouvoir faire en sorte que la laine du coup reste sur la flûte.
Et c'est ça que le lissier utilise passe, pour passer
voilà, exactement,
entre les fils de chaîne.
Donc c'est fait pour ça, c'est pour que ça passe facilement en fait. Ça glisse, voilà, que ça n'accroche pas et que le lissier puisse travailler de manière plus fluide en fait. Ça c'est très important la fluidité dans la tapisserie bassiste. Quand vous voyez les professionnels travailler, c'est très fluide. Et ça c'est important. Donc on va revenir à nos moutons et à nos laines. Du coup on va tirer nos bobines, nos fils de bobines dans notre flûte. On va enrouler. Donc parfois, on va prendre un fil bleu clair, un fil bleu foncé, par exemple, pour faire un fil un peu plus clair. Voilà, une couleur qu'on n'a pas eu à la teinte. On peut faire la même chose avec les autres couleurs. Voilà, un orange plus clair et un orange, un rouge et un rose. Voilà. Donc on monte nos flûtes. On va les regrouper par paquets. Des paquets qui seront du coup regroupés par couleur. Voilà, donc des petits paquets de toutes les couleurs. Donc bon, dans mon exemple, tous les paquets ne sont pas forcément voilà de mis par groupe de couleurs, mais bon. Donc les flûtes sont apportées au lissier.